Bonjour à tous. Merci pour la prière. On a toujours besoin. Je mets un petit peu tout mon matériel parce que je viens toujours avec mes valises. Je m'installe. En tout cas, il y a du bon matos ici, ça c'est bien. Donc comme je disais, bonjour à tous. Alors je m'appelle Harry. Donc avec ma femme Elisa, on a le plaisir de vous visiter aujourd'hui. Alors je sais que la plupart d'entre vous, vous connaissez le visage de ma femme. Moi, un petit peu moins. Mais bon, je pense que je passe un peu moins inaperçu du coup, ici. Alors moi, je suis étudiant à l'Institut biblique de Genève. Enfin, anciennement étudiant, ça fait une dizaine de jours que j'ai terminé. Merci Seigneur. Donc voilà, j'ai étudié pendant 4 ans à l'Institut biblique de Genève. Et maintenant, avec mon épouse, eh bien, nous cherchons la volonté du Seigneur pour savoir où est-ce que nous allons le servir à l'avenir. En tout cas, encore une fois, bonjour, même à ceux que je n'ai pas pu visiter. Il y en a quelques-uns que j'ai vus, que je connais. Il y a ma cousine qui arrive en retard. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors moi, j'ai quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Paul. En fait, moi, dès que je me sens un peu pas digne, pas bien, etc., je repense toujours à Paul. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Paul, celui qui a écrit cette lettre aux Éphésiens, Paul, si je devais faire très simple, son CV, ancien persécuteur de l'Église. En gros, tous les chrétiens, en fait, il avait qu'une seule volonté, c'était les pourchasser, les tuer, les torturer. Et en fait, Paul, c'était comme un super agent du FBI. Vous savez, le FBI, ils ont la possibilité d'aller dans tous les États des États-Unis pour aller arrêter les gens. Mais Paul, c'était un super agent. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Paul, qui, alors qu'il était un ouvrier en démolition, en fait, il est devenu un ouvrier en construction. Un ouvrier en construction à la gloire de Dieu. Et à chaque fois, je me rappelle que ce que Jésus a fait dans la vie de Paul et qu'il a fait dans la mienne, c'est juste incroyable. En fait, Paul a opéré un revirement à 180 degrés. Il allait dans cette direction, le Seigneur l'a touché, il est parti dans cette direction-là. Et c'est juste fou, quoi, de voir l'action de l'Évangile dans la vie d'un homme. Et ce Paul, comme je disais, qui est devenu un ouvrier en construction, est celui qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. En fait, son souhait était d'édifier l'Église de Jésus-Christ. Et cette lettre aux Éphésiens, qui est juste magnifique, c'est ma préférée, en fait, elle est juste incroyable, avec un apport théologique qui nous rappelle ce que Jésus-Christ a fait, et quelle est notre identité en Jésus-Christ. Et ensuite, il ne nous laisse pas tout seul, en nous disant, parce que vous avez cette identité-là, voilà comment est-ce que vous devez vous comporter. Et cette lettre, moi j'aime beaucoup la lire, la relire, la méditer. Et c'est vraiment avec joie que je vais pouvoir parler un petit peu de ce texte-là. Qui a vu Matrix? Ah, presque tout le monde. Bon, c'est bon, je vais juste raconter un petit peu ce que c'est que ce film. Matrix, en gros, c'est un gars, lambda. Il y a un truc juste incroyable qui lui arrive, c'est qu'il y a des gens qui viennent le voir et qui lui disent « T'es l'élu, t'es le messie, t'es le gars qui va sauver l'humanité. » Alors le gars, au début, il est un petit peu sceptique. Et puis finalement, on lui montre que son identité, c'est pas celle qu'il croyait être. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il comprend que cette nouvelle identité qu'il a des implications pour sa vie. Et il va apprendre, au contact de Morpheus, alors pour ceux qui se souviennent de ce film-là, en fait, il va apprendre quelle est cette identité et ce à quoi il est appelé. Eh bien, c'est exactement ce que Paul fait dans cette lettre. Ça marche pas. Ça marche une fois. Bon, bah alors je ferai signe si c'est possible. Merci. En fait, il faut se rappeler que dans cette lettre, Paul est en train de parler à des personnes qui, avant, ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, des païens, et qui maintenant, par l'action de Jésus-Christ, font partie de ce peuple. C'est-à-dire tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qui sont devenus enfants de Dieu. Leur ancien statut, mort, à cause de leurs péchés, à cause de leurs erreurs, à cause de leur incapacité à faire la volonté de Dieu, et aujourd'hui en Christ, vivant et destiné à faire de belles œuvres. Et à cause de ce changement, eh bien, il y a une nouvelle relation avec Dieu. Et Paul va dire, ça ne s'arrête pas là. C'est aussi une nouvelle relation avec les autres. La semaine passée, vous avez vu cette restauration, cette relation de l'homme et de sa femme, selon le plan de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que le chrétien est appelé à vivre dans ses relations avec les autres. Quel est le premier endroit où on peut expérimenter justement une relation avec l'autre ? La famille et le lieu professionnel. Donc voilà un petit peu, si vous deviez repartir juste avec une chose, ce titre. Imiter Christ dans nos relations mutuelles, c'est faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que ça va impliquer ? Ça va nous impliquer pour nous d'obéir comme Christ, enseigner comme Christ, servir comme Christ et mener comme Christ. Diapo suivante. Si vous êtes comme moi, quand vous avez lu le passage, vous vous êtes dit, aïe, 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 ok. On voit tout de suite, hein, ça saute aux yeux, ce style qu'il y a. Hein. C'est un impératif présent. Vous savez, hein, fais pas ci, fais pas ça, mais fais ça, fais ci. Vous savez, les trucs qu'on n'aime pas trop entendre en général. Alors, je ne sais pas pour vous, mais là, moi, quand j'étais enfant, dès que j'entendais ça, je faisais exactement l'inverse. Mais vraiment, même si je savais que ce n'était pas bien, juste par principe, je faisais l'inverse. En fait, pour nous, c'est comme une atteinte à notre propre liberté. C'est un frein à notre libre arbitre, et ça, ça ne nous fait absolument pas plaisir. Mais le chrétien, lui, est amené à voir l'autorité sous un autre angle, sous l'angle du regard de Dieu, qui appelle à une soumission à la parole, non pas pour notre mal, mais pour notre bien. Et ce texte commence par « Enfants, obéissez à vos parents. » C'est clair, hein ? Obéir, c'est quoi ? Obéir, c'est se soumettre à la volonté d'une autre personne, une autre personne que soi, c'est accepter de faire la volonté de l'autre plutôt que de faire celle que moi j'aimerais faire pour moi. Alors vous allez me dire, bah, pour un enfant, c'est juste normal. Un enfant, il doit obéir et c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la capacité à prendre de grandes décisions pour lui. Il n'a pas la capacité de savoir ce qui est bon pour lui. Parce qu'il y a encore des tas de choses qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, et il a besoin d'être guidé au travers de l'obéissance. Je vous donne un exemple. Prenez un enfant. Prenez un pot de peinture, vous mettez tout ça dans une pièce, vous fermez, vous attendez une heure. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver ? Diapo suivante. Merci. Non, mais sérieusement, c'est ça qui va arriver. Laissez un enfant livré à lui-même, et voilà ce qui arrive. Au mieux, vous allez avoir une décoration art déco toute neuve et gratuite. Ou au pire, vous n'avez plus besoin de vous poser la question « Mais qu'est-ce que je vais bien faire à manger ce midi ?» Parce que lui aura déjà trouvé. Merci. Diapo suivante. Alors oui, ce texte s'adresse à des enfants, s'adresse à des jeunes hommes et des jeunes femmes aussi, en âge de comprendre ce que cela implique. Ce texte s'adresse à tous ceux qui sont encore sous la responsabilité de leurs parents, ceux qui sont dépendants matériellement, parce que les parents subviennent encore à leurs besoins, ceux qui sont encore dépendants juridiquement. Alors je ne sais pas s'il y en a encore ici, vous avez l'air d'être quand même assez âgé, mais est-ce qu'il y en a encore qui sont chez leurs parents? Ah oui, quand même. Est-ce qu'il y en a qui financièrement arrivent à complètement s'assumer? D'accord. Mais sachez que tant que vous n'êtes pas en mesure de vous assumer par vous-même, de subvenir à vos besoins, d'être juridiquement indépendant, ce texte s'applique à vous. Ce texte s'applique à vous. Et encore une fois, ce texte est clair. Ce texte, en fait, ne laisse pas de liberté à un autre choix. Enfants, obéissez à vos parents. Et pourquoi est-ce qu'on doit obéir à ses parents? Parce que c'est juste, parce que c'est dans la logique des choses. Les parents sont adultes et responsables, et vous, pas encore. Donc il est normal de suivre leurs directives, car ils savent mieux que nous. Mais aussi parce que c'est bon d'obéir à ses parents. Et pourquoi est-ce que nous avons besoin d'obéir? Parce que c'est une opportunité pour nous d'apprendre. Vous savez, obéir en grec, c'est, on trouve l'idée d'être sous et en même temps d'écouter. Donc c'est d'être sous l'écoute de quelqu'un d'autre. C'est écouter attentivement pour être ensuite en mesure de mettre en pratique ce qui est demandé. Et cette obéissance, encore une fois, est pour notre bien, pour notre vie, pour éviter les souffrances, éviter les erreurs. J'aime beaucoup une illustration de Florent Varac, qui est pasteur du côté de Lyon. Il utilise souvent, vous avez déjà regardé à la télé aux États-Unis, vous avez ces émissions où il y a des pourchasses en voiture et vous avez un hélicoptère qui filme en haut. Vous avez déjà vu ça? Mais en fait, pour Florent Varac, et j'aime beaucoup cette illustration, ben les parents, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'au sol, les policiers, ben ils savent pas trop est-ce qu'il a tourné à droite, à gauche, où est-ce que je dois aller, comment est-ce que je peux faire pour l'arrêter. Mais en fait, ils ont besoin de quelqu'un qui arrive à avoir du recul, de la distance, pour pouvoir ensuite donner les bons conseils, pour pouvoir diriger. Et voilà ce que sont les parents pour nous. Et voilà pourquoi il est utile pour des enfants d'écouter les parents. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a des limites justement à l'obéissance envers nos parents? Est-ce qu'il y a des choses où, là, ça y est, c'est bon, je peux faire ce que je veux? En fait, la seule limite, c'est ce que le texte nous dit. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons leur obéir, quoi qu'il en coûte, à moins que ce qu'ils nous demandent soit en contradiction avec la parole de Dieu. Mentir, tricher, voler, ou faire des choses que nos parents nous demanderaient et qui ne seraient pas de bonnes choses. Peut-être que vous avez déjà expérimenté, quand vous étiez plus jeune, le téléphone sonne et votre maman vous dit « Dis que je suis pas là, dis que je suis pas là !» Et bien normalement, pour nos enfants, la réaction ce serait de dire « Alors, ma maman me dit de vous dire qu'elle n'est pas là !» Normalement, ce serait ça notre réaction. C'est ça que nos enfants doivent apprendre. Et cette obéissance à nos parents doit s'exprimer dans l'honneur. Honorer nos parents. Alors qu'est-ce que ça veut dire, honorer nos parents? Honorer, c'est montrer que nos parents ont de la valeur pour nous. C'est-à-dire que ce qu'ils nous disent, ce qu'ils font a du poids. Qu'est-ce qu'on pourrait penser de ces hommes qui ont donné leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale? De ces anciens militaires que l'on voit lors des célébrations de l'armistice, etc. En fait, ces personnes-là, on leur manifeste de l'honneur pour ce qu'elles ont fait, pour les sacrifices qui ont été opérés. Et moi, j'ai envie de vous dire que dans notre monde, on devrait aussi avoir le même honneur pour nos parents. Le même honneur pour ceux qui nous ont donné la vie. Le même honneur pour ceux qui se sont sacrifiés, des fois financièrement. Le même honneur pour ceux qui, lorsque vous étiez enfant, vous ont nettoyé le nez alors qu'il coulait. Le même honneur pour ceux qui pensent à vous, qui vous aiment, qui prient pour vous et qui veulent le meilleur pour vous. Et ça, je crois que c'est des choses que notre société oublie trop souvent. On doit manifester de l'honneur pour nos parents. Leur montrer que nous sommes reconnaissants pour ce qu'ils ont fait pour nous. Et pourquoi honorer ? Pourquoi honorer nos parents ? Pourquoi apprendre à nos enfants à honorer les parents ? Parce que déjà à leur âge, ils sont en train d'apprendre ce que ça voudra dire quand ils rencontreront Jésus-Christ, d'honorer le Père, d'honorer leur vrai Père. Et si on ne leur inculque pas ça, comment est-ce qu'on peut espérer qu'ils puissent le faire pour Dieu ? S'il y a une responsabilité pour nos enfants, qui est d'obéir, d'honorer, il y a aussi une responsabilité pour les parents, qui est d'enseigner. Qui a des enfants ici ? Alors, il y en a quelques-uns. Alors nous, avec mon épouse, on attend notre premier enfant. Alors j'ai un ami qui m'a dit un truc, bon ça m'a mis un peu le cafard, il m'a dit, tu sais Harry, quand le bébé sera là, en fait, tu vas commencer à être moins cool. Bah ouais, parce qu'en fait, ton enfant, il va te dire, bah, papa, t'es pas super cool, t'es pas machin. Bon, on va s'habituer. Non, je blague. En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. À qui s'adresse cette partie de texte-là ? Sentez-vous libre de répondre. Hein ? Alors, j'ai cru entendre. Plus précisément. Oui, au père. Alors j'ai cherché dans tous les sens pour savoir si père, c'était pas parent, etc. Non, non, même dans le grec, c'est les pères. Moi, il y a quelque chose qui me désole des fois et qui me fait mal. En fait, c'est la défaillance de l'homme dans notre société. La défaillance de l'homme dans notre société. De l'homme qui est absent, de l'homme qui ne prend pas ses responsabilités. De l'homme qui est capable de faire des enfants mais qui ne veut plus s'en occuper après. Et ce texte est clair, ce texte s'adresse à nous, les gars. Que vous ayez des enfants ou pas, ce texte nous rappelle que nous avons une responsabilité. Vous avez des enfants, vous avez une responsabilité envers eux. Vous n'en avez pas, vous avez une responsabilité pour vous former à élever des enfants. Nous devons nous rappeler que nous sommes responsables de nos enfants. Alors souvent, les gens vont dire « Ah ben oui, mais moi je suis responsable, je mets de la nourriture sur la table, je travaille dur pour payer les factures. » Amen, c'est très très bien. Et c'est une très bonne chose. Mais élever un enfant ne se cantonne pas juste à mettre de la nourriture sur une table ou à payer les factures. Élever un enfant, c'est bien plus que ça. Et le texte nous dit « Père, n'irritez pas vos enfants. » Alors la première chose qui viendrait à notre esprit, ce serait en gros « Père, n'embêtez pas vos enfants. » Je vais vous citer certaines choses et vous allez me dire si ce sont des choses qui sont en mesure peut-être d'irriter nos enfants. Les décourager. leur dire qu'ils sont nuls, les humilier devant les autres, les rabaisser, être un tyran à la maison, avoir des attentes impossibles à atteindre pour eux, être absent du foyer, être négligent lorsqu'ils sont avec nous, ne pas demander pardon lorsque l'on a tort. Est-ce que toutes ces choses, et la liste pourrait être encore très très longue, est-ce que toutes ces choses, lorsqu'un père les fait, ne peuvent pas être la source d'une irritation pour nos enfants ? Mais la Bible nous enseigne à faire autrement, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Quel est notre objectif pour nos enfants ? Quelles sont les choses pour lesquelles nous prions régulièrement pour eux ? Est-ce que c'est « Seigneur, je te prie qu'ils fassent de hautes études »« Seigneur, je te prie qu'ils puissent avoir un excellent travail »« Seigneur, je te prie pour la santé » Ou est-ce que nous prions pour que nos enfants puissent grandir dans une maturité spirituelle avec Jésus-Christ ? Est-ce que nous prions pour que nos enfants grandissent dans une maturité spirituelle avec Jésus-Christ, afin d'être équipés par lui pour vivre cette vie qui les attend là à l'extérieur ? Parce que sachez que ce qu'ils n'auront pas dans le foyer, ils le trouveront dehors. Ce que vous n'aurez pas fait, quelqu'un d'autre s'en chargera. Vous savez, le grand commandement de Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples. En fait, ce n'est pas juste de se dire je vais partir au Burkina Faso ou je vais partir en Thaïlande. En fait, ça commence déjà dans notre foyer. Le faire des disciples, ça commence déjà dans notre foyer. Et je dois avouer que ça fait à peu près 3 ans que je suis dans le ministère et souvent on retrouve un petit peu la même chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas ici, je ne connais pas assez l'Église. Mais souvent ce qui est clair, c'est que l'on voit des femmes qui, elles, sont plus enclines à prendre cette responsabilité-là. Et quelque part, heureusement qu'elles le font. Mais parce que la place, souvent, est laissée libre. Et nous, les gars, maintenant, il faut que nous prenions nos responsabilités et que nous prenions la place que le Seigneur nous donne, celle d'être les leaders dans notre famille, d'être ceux qui vont enseigner selon Jésus-Christ. Vous savez, élever un enfant, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement apporter de la nourriture, mais élever un enfant, c'est chercher à l'amener d'un point A à un point B, le faire grandir, le hisser pour qu'il puisse être meilleur, capable de faire la différence entre le bien, le mal, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et comment est-ce que nous pouvons faire ça ? Par la parole de Dieu. Vous savez, il y a des tas de choses que l'on peut faire dans une famille. Un culte de famille, où on va lire un verset, et puis on va le méditer en famille, on va se poser des questions. Priez ensemble. Combien d'entre vous, quand vous étiez enfant, vous avez prié avec vos parents ? Moins de 10. Moi, quasiment jamais. Et ça, ce sont des choses que l'on peut mettre en pratique. Comment est-ce qu'on veut faire apprendre à un enfant à prier ? Prions avec lui. Comment est-ce qu'on veut qu'il puisse découvrir la parole de Dieu ? Lisons-la avec lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'avoir des enseignements qui sont adaptés aux enfants. Vous avez des bibles de l'aventure, vous avez des fascicules qui sont juste extraordinaires. Alors profitons de ça justement pour enseigner nos enfants. Maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse. Enseigner nos enfants, cela suppose déjà que nous-mêmes nous soyons enseignés. Que nous-mêmes nous ayons un amour pour la parole de Dieu. Que nous cherchions à la connaître davantage et à grandir avec elle. Et vous, mesdames, si vous êtes mariées ou quand vous serez mariées, d'être un encouragement pour votre mari, pour prendre le rôle, pour prendre la place qu'il doit avoir, celle de leader. Mesdemoiselles, qui peut-être attendez l'heureux élu, ne soyez pas tentées par quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel. Mais cherchez quelqu'un qui voudra avoir un foyer dans lequel il enseignera, il aura le désir d'enseigner ses enfants. Et non pas un homme qui vous dira, écoute, ça c'est ton affaire, ça ne m'intéresse pas. Et vous, jeunes hommes, messieurs, si la jeune fille qui se trouve à côté de vous est célibataire, invitez-la. Voilà, ça c'est dit. Mais sérieusement, c'est une énorme responsabilité. C'est une énorme responsabilité d'avoir, quelque part, cet avenir pour nos enfants. Servir comme Christ, les versets 5 à 8. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous vous ne savez pas trop ce que c'est que cette fresque. En fait, c'est un tableau qui montre ce qui s'est passé en 1804 en Haïti. En fait, ancienne colonie française, on l'appelait la perle des Antilles. En fait, c'est le premier pays noir à avoir obtenu son indépendance. Avant cette période-là, esclavage. Esclavage. Avant cette période-là, privation, pas d'identité. En fait, les hommes et les femmes, à ce moment-là, étaient juste des objets. Et quelque part, encore aujourd'hui, lorsqu'on pense à l'esclavage, on se dit « Ah, c'est juste affreux, c'est répugnant. » Et c'est le cas, c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas une bonne chose. Mais je voudrais remettre les choses dans le contexte, parce que lorsqu'on parle de l'esclavage dans la Bible, ce n'est pas ce qu'on a pu entendre concernant les États-Unis il y a 200 ans. En fait, la situation était bien différente. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'était plus facile, que c'était mieux. Mais c'était quelque chose de différent. En fait, c'était un esclavage qui était institutionnalisé. Des hommes libres avaient la possibilité de se donner comme esclaves, parce qu'ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. Il faut se rappeler qu'un tiers de la population de l'Empire romain, en fait, c'était des esclaves. Donc imaginez, vous étiez un homme libre, mais vous n'aviez pas d'argent, pas de nom, pas de famille, et vous cherchiez un travail. Alors c'était assez difficile, puisque peut-être que tous les postes étaient déjà pris justement par des esclaves. Et donc du coup, les hommes décidaient de se proposer comme esclaves, parce que c'était le moyen pour eux d'avoir la possibilité de subvenir à leurs besoins, avec un maître qui allait leur donner tout simplement un toit et à manger. Et je dis ça parce que des fois on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que la Bible ne condamne pas plus souvent ou plus fermement l'esclavage? La Bible ne cherche pas à changer les institutions, mais la Bible cherche à changer les cœurs des hommes. Et voilà pourquoi, dans ce texte, on parle des esclaves. Alors, encore une fois, donc on revoit « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres ». En fait, c'est exactement le même mot que pour les enfants qu'on a vu un petit peu plus haut. En fait, les esclaves sont amenés à obéir à leur maître dans les mêmes conditions, avec la même limite qui est dans le Seigneur. Et cette obéissance doit se faire dans la crainte, le respect et la sincérité comme à Christ. En gros, ce que Paul est en train de leur dire, c'est que ce que vous faites en tant qu'esclave, considérez que vous le faites pour Jésus-Christ. Et cela implique quelque chose. Aujourd'hui, si on devait faire un parallèle entre le statut d'esclave de l'époque et aujourd'hui, ce serait votre statut de salarié, votre statut d'employé. Et voilà ce que la parole de Dieu nous invite à faire dans notre relation professionnelle. Ce que la Bible nous invite à faire, c'est à obéir avec crainte, respect et sincérité, comme si nous étions en train de travailler pour Jésus-Christ. Et si c'est pour Christ que nous travaillons, si c'est pour ce Christ, celui qui a la première place dans notre vie, alors il y a des choses qu'on ne fera pas. Alors il y a des choses qu'on ne se permettra pas. Vous savez, en 2014, j'ai vu une étude qui montrait quelles étaient les sources de la baisse de la productivité en France. Alors je dois avouer que c'est assez intéressant. Pour 24% des personnes qui ont été interrogées, en fait, elles ont déclaré que à peu près une heure par jour, en fait, elles étaient soit au téléphone, soit en train d'envoyer des SMS, soit en train d'envoyer des mails privés. Une heure par jour. Et ça, ce sont ceux qui ont accepté de dire la vérité. 21% d'entre eux avouent passer une heure sur Internet, Facebook en première place, au travail. Après, on leur a demandé... À votre avis, quel est le problème dans votre productivité? Un quart ont répondu que pour eux, un des freins à leur productivité, c'était le nombre de pauses café qu'elles prenaient. Un quart. Et la moitié d'entre eux ont dit que c'était les ragots entre collègues. Voilà la société dans laquelle on est. C'est-à-dire que dans le travail, des fois, on se permet des choses qu'on ne devrait pas faire. Et Paul nous invite à avoir une attitude complètement différente de ça. La Bible nous invite à être tout simplement les meilleurs travailleurs du monde. En fait, il faudrait que lorsqu'un employeur décide de mettre une annonce quelque part, qu'il se dise « Je veux un chrétien, je veux un chrétien !» Est-ce qu'on se rend compte de l'impact que ça aurait si on vivait vraiment ce que Paul nous invite à faire là? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Si tous les chrétiens, sur leur lieu de travail, vivaient exactement ce que Paul est en train de dire là, de travailler avec crainte, respect, soumission, comme si nous étions en train de travailler pour Christ. Est-ce qu'on se rend compte de l'impact que ça aurait? Lorsque nous travaillons, nous le faisons pour Christ. Et cela doit nous rappeler ce passage dans 1 Corinthiens 10:31. Faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Que ce soit quelque chose qui est visible par les hommes, ou que ce soit dans l'anonymat. Il faut se rappeler que tout ce que nous faisons devant Dieu, de toute manière, est visible pour lui. Et je crois que des fois, dans notre conception, on oublie que Dieu est là, que Dieu nous voit. Vous savez, aujourd'hui, sur nos ordinateurs au travail, on a des petits logiciels qui permettent, lorsque l'employeur arrive, de passer à la page d'après. Et de dire, oui, tout va bien, je suis sur le dossier Weber, pas de problème, il sera sur ton bureau à la fin de la journée. Alors qu'en fait, juste avant, on était peut-être en train de faire un solitaire. Alors s'il y en a qui se reconnaissent, je ne demande pas à ce que vous leviez la main. Nous sommes appelés à être les meilleurs travailleurs. Nous sommes appelés à être des serviteurs, à l'image tout simplement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui est venu comme un serviteur, a servi fidèlement jusqu'à la fin. Vous savez, des fois, lorsqu'on fait des choses, ce qui est un peu frustrant pour nous, c'est de se dire « Ouais, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. » Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec le Seigneur, en fait, rien n'est vain. Rien n'est vain. Vous savez ce que c'est, ça ? Alors, le premier qui trouve, je lui donne un bonbon. Ah, j'ai entendu. Ouais, bonbon. En fait, ça, c'est la Légion d'honneur. C'est-à-dire que c'est la récompense, la plus haute distinction que la République française peut accorder à un homme. En fait, c'est une distinction qui a vocation à célébrer un acte de courage, un acte de générosité, ou quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour la nation française. Et dans les meilleurs cas, vous savez que c'est le président de la République qui peut vous la donner. Waouh ! Écoutez, vous savez, nous, ce ne sera peut-être pas la Légion d'honneur. Mais ce sera le Seigneur qui nous dira « Viens, bon, fidèle serviteur. » Et cette Légion d'honneur, ça ne durera pas. Je ne sais pas combien de temps, au bout de combien de temps ça disparaît, ce truc-là. Mais ce que nous recevrons de Dieu, ce sera pour l'éternité. Nous aurons une récompense éternelle. Moi, rien que le fait de me dire que le maître de l'univers pourra me dire « Viens, bon et fidèle serviteur », moi, ça me motive. Moi, ça me motive. Ça me motive. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour les hommes. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour être vus des hommes. Mais nous le faisons pour la gloire de notre Dieu. Et nous sommes appelés à être des leaders comme Christ. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, en sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Comment est-ce que vous aimez être traité ? Comment est-ce que vous aimez que les autres vous traitent ? En fait, moi, j'aime que les autres puissent me traiter comme moi, j'aimerais être traité, tout simplement. Je voudrais qu'on me fasse des choses bien, des choses bonnes, des choses agréables. C'est comme ça que je voudrais être traité. Et là, ce que Dieu est en train de dire au travers de Paul, au travers de Paul, c'est que ceux qui sont en situation d'autorité sont appelés à traiter ceux qui sont sous leur autorité avec le même respect qu'ils voudraient être eux-mêmes traités. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi révolutionnaire d'avoir un employeur qui vous traite comme vous voudriez être traité. Moi, je me souviens, quand j'étais encore juriste, j'avais des tonnes de dossiers sur mon bureau. J'en avais pour des mois et des mois avant de les terminer. Et j'avais un responsable qui était juste au-dessus de moi. Je vais vous dire la vérité, pendant un an et demi, j'ai évité de passer devant son bureau parce que j'avais peur de lui, je ne voulais pas le voir, je ne voulais pas discuter avec lui parce qu'il allait me donner un autre dossier, tout simplement. Et j'en avais déjà assez sur mon bureau. Pendant un an et demi, je l'ai esquivé comme la peste. Et vous savez à quel moment mon attitude a complètement changé envers lui ? C'est le jour où j'étais à bout, où j'avais tous ces dossiers, j'en avais assez, j'en avais marre. En fait, il est venu avec sa chaise, il s'est assis à côté de moi, et il m'a dit « Par où est-ce qu'on commence ?» Et pendant deux jours, il m'a aidé sur tous mes dossiers. À votre avis, quel impact ça a fait ça sur moi ? Alors pendant 10 secondes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Je vais être renvoyé demain, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, parce que vous voyez votre boss qui arrive, qui se met à côté de vous, vous dites, aïe, 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 ça sent mauvais. En fait, moi, ça m'a juste impacté de voir comment est-ce qu'il agissait envers moi, qu'il avait pris de son temps, qui était déjà un temps pas vraiment élastique, pour le passer avec moi, pour m'aider, parce qu'il voyait que j'étais dans une situation où ça n'allait pas du tout, où je ne voyais plus du tout le bout. Et pour moi, ça, c'est un leader. Pour moi, ça, c'est un meneur. Parce qu'après ça, j'ai complètement changé d'attitude envers lui. Il aurait pu me demander n'importe quoi, je l'aurais fait. Parce que je sais de quoi il était capable pour moi, qu'il était capable de se mettre en danger pour moi. Dans cette église, je suis convaincu qu'il y a des futurs leaders en puissance. L'attitude d'un leader, ce n'est pas celle qui consiste à menacer ceux qui sont sous son autorité. Ce n'est pas ça un leader. Un leader, c'est celui qui est capable de prendre les gens et de les amener à des choses extraordinaires. C'est celui qui est capable de les motiver, celui qui est capable de les aider à progresser. Qu'est-ce que Jésus a fait avec ses disciples ? Jésus a pris des tocards. Non, il faut le dire, hein. Il a pris des tocards. Et il les a formés. Il les a challengés. Il les a aimés. Il les a aidés à avoir de l'ambition pour en faire des disciples. Pour en faire des hommes et des femmes qui allaient annoncer la plus grande nouvelle au monde. Voilà ce que c'est qu'un meneur. Et voilà ce que Paul est en train de dire au maître. Agissez de même envers eux. Abstenez-vous de menaces. Pourquoi ? Parce que vous ne valez pas mieux, vous ne valez pas plus que vos esclaves. Si vous êtes dans une situation d'autorité, devant Dieu, vous avez la même valeur que vos employés. Devant Dieu, nous avons tous la même valeur. Que nous soyons des employeurs ou des employés. Et nous devons faire attention à notre manière de traiter les autres. Parce que l'autre, lui aussi, est fait à l'image de Dieu. L'autre aussi est aimé de Dieu. Et nous avons une responsabilité envers eux. Obéir comme Christ, enseigner, éduquer comme Christ, être des serviteurs comme Christ, et être des meneurs comme Christ. Voilà l'attitude que nous devons avoir dans nos relations mutuelles avec les autres. Est-ce que c'est facile ? Non. Est-ce que c'est possible ? Oui. Oui, c'est possible, avec l'aide de Dieu. Moi, je vous invite à réfléchir justement à ce que cela implique dans vos vies, dans votre contexte particulier. Est-ce qu'il y a des domaines où c'est chaud ? Est-ce que j'ai du mal avec l'obéissance ? Est-ce que j'ai du mal avec mes enfants, si j'en ai ? Est-ce que dans le service, je le fais pour être plus vu que pour honorer Dieu ? Et est-ce que je suis un meneur qui veut amener des gens à grandir ? Et dans tout ça, ce que l'on voit, en fait, c'est l'image de Jésus-Christ. Si vous vous souvenez au début du chapitre 5, voilà ce qui était dit. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que notre souhait pour l'Église de Jésus-Christ est que cette Église ait une odeur qui soit agréable à Dieu. Je vous invite à la prière. Père, il est si facile pour nous de dire que nous voulons ressembler à ton Fils Jésus-Christ, que c'est ce que nous désirons plus que tout. Et je dois t'avouer que moi, dans beaucoup de domaines, je suis défaillant. Et je veux te demander pardon pour ça. Pardon parce que, bien trop souvent, dans mes relations avec les autres, c'est plus mon intérêt à moi qui ressort. Et pourtant, ta parole nous invite, m'invite à considérer l'autre, m'invite à obéir lorsque je dois obéir. M'invite, Seigneur, aussi à être un père ou un futur père qui enseignera la vérité de ton évangile, à être un serviteur. Et je te demande pardon parce que bien souvent, c'est moi que je sers. Bien souvent, c'est moi que je veux montrer. Alors que nous, celui que nous devons montrer, c'est toi. Seigneur, oui, nous te demandons que par ton esprit, tu nous aides à ressembler véritablement à Jésus-Christ. Merci, Père, parce que lui a montré, lui a vécu exactement ce que Paul était en train de citer. Alors, gloire à toi. Et que nous puissions avoir ce désir de suivre ton exemple jour après jour.